vous suit.
Voici les titres du journal.
Le Grand Conseil valaisan a débloqué ce matin une aide de 28,75 millions de francs en faveur des remontées mécaniques du canton. On vous en parle dans ce journal, avec un retour aussi sur la désignation hier du nouveau préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Réalisée pour soulager le trafic, la H144 fête ses 10 ans. Avec 12 000 véhicules chaque jour, son bilan est jugé bon, mais des travaux sont encore nécessaires. Une étape importante se joue aujourd'hui à Berne. Les groupes parlementaires désigneront leurs candidats à la succession des conseillers fédéraux démissionnaires Simonetta Sommaruga et Uli Maurer. En ski alpinisme, Morgin veut aller encore plus loin. Après la Coupe du Monde en 2022 et en 2023, la station veut accueillir les Mondiaux de 2025. Et en hockey sur glace, la Chablais Connection fonctionne au HC Sierre.
Le temps sera changeant cet après-midi pour ce week-end. Du soleil, mais aussi des nuages. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Martine Vistiner. Bonjour Martine.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Sans surprise, le Parlement valaisan a validé ce matin une enveloppe d'aide en faveur de 18 sociétés de remontées mécaniques du canton. Il l'a fait 96 voix contre 31 et sans abstention. Et accorder donc un soutien de 28,75 millions de francs pour couvrir les déficits dus à la diminution des recettes pour la période 2020-2021, Yves Terrani, la gauche, a bien tenté de s'opposer à cet objet sans succès.
Oui, et on peut s'arrêter un instant à ce propos sur les amendements déposés par le socialiste montaisan Blaise Caron pour conditionner ce crédit supplémentaire à l'application du contrat type de travail en vigueur dans la branche durant la période considérée. Le Chablaisien affirme en effet que 39 entreprises de remontée mécanique sur les 52 que compte le canton ne respectent pas ce canton.
Et la droite n'a pas été sensible à cet argument.
Oui, la droite qui, alors que Blaise Caron parlait d'éthique et d'image de sérieux pour le Valais, a assimilé ce conditionnement à du chantage, voire à un mélange d'intérêts. Comme l'a souligné ce matin le chrétien social du Haut-Valais, Urban Fourer, plusieurs députés ont en outre considéré que le Grand Conseil ne pouvait pas changer les règles du jeu en cours de jeu, justement. Est-ce changer les règles du jeu que de demander de baisser les subventions? S'est alors interrogé la chef du groupe des Verts, Céline Décimeau. Blaise Caron a ensuite supplié qu'au moins quelques membres par faction s'abstiennent de voter pour montrer que le Grand Conseil valaisan n'est pas un féodé aux sociétés de remontée mécanique. Il n'a pas été entendu puisqu'il n'y a pas eu la moindre abstention.
Et puis Yves, le Grand Conseil a rejeté, toujours ce matin, une demande de récusation de la commission de justice dans l'affaire dite de Sans Brancher.
Alors on ne va pas entrer dans les détails de cette affaire qui a été largement médiatisée et qui implique la commune de Sans Brancher, le quotidien Le Nouvelliste, la COJU, la commission de justice du Grand Conseil et l'actuel préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, maître Sébastien Fanti. C'est ce dernier qui demandait la récusation de la COJU dans cette affaire, laquelle avait refusé à l'unanimité de ses 13 membres de le faire. Un choix validé ce matin par le Parlement par 109 voix contre 8 et 10 abstentions.
Un énième rebondissement, Yves, qui a perdu passablement de sens en cours de route.
Absolument, puisque Sébastien Fanti quittera le 31 décembre sa fonction de préposé. Vous m'offrez là, Martine, une transition toute trouvée. On le rappelle, hier matin, Loris Loat a été désigné par le Grand Conseil valaisan pour succéder le 1er janvier prochain à l'actuel préposé. L'avocat d'origine vaudoise était alors présent dans la tribune du public. L'occasion pour nous de lui demander si, alors qu'il était élu tacitement, il regrettait de n'avoir pu combattre, étant le seul candidat proposé au Parlement valaisan par la Commission cantonale de protection des données et de transparence.
Oui, c'est un regret. J'aurais préféré qu'on soit plusieurs jusqu'à la fin et puis qu'on puisse débattre aussi devant les groupes. Je pense que ça aurait donné aussi plus de légitimité au poste, à l'élection, et les groupes auraient été plus satisfaits d'avoir plusieurs candidats, à mon sens.
Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette candidature ?
Ça a été une longue réflexion, vu que de toute façon, ça faisait depuis le début de l'année qu'on savait que M. Fanti ne voulait pas se représenter. J'ai longuement réfléchi, puis je me suis dit que je faisais de plus en plus de protection des données, c'est quand même un domaine qui me tient à cœur, et que les administrés valaisan avait quand même aussi le droit d'avoir un préposé qui puisse défendre leurs droits, et c'est ça qui m'a motivé en premier lieu.
Vous êtes vaudois d'origine, un avantage et un inconvénient. Avantage, vous n'êtes pas dans le sérail de ce canton aux affaires multiples. Inconvénient, vous avez peut-être une connaissance moindre du Valais. La balance se penche de quel côté ?
Effectivement, je suis éloigné du sérail politique, qui je pense est un avantage pour préposer et garder cette indépendance et cette distance, je pense que c'est nécessaire. Au niveau de la connaissance du Valais, je suis vaudois d'origine, mais ma famille a une résidence entrepreneur en Valais depuis toujours, donc j'y viens depuis ma naissance au final. Pour des vacances, ça a été mon premier travail comme prof de ski aussi en Valais, donc mon premier job d'étudiant, j'ai envie de dire. Par-dessus ça, ben, je vis quand même en Valais maintenant, même si je suis vaudois d'origine, je vis en Valais, donc dans le Chablais, mais quand même valaisan. Et donc ça me permet de connaître le canton.
Le Parlement l'a fait observer ce matin, votre compagne est députée socialiste au Grand Conseil.
Bah oui, elle est députée socialiste. Je pense qu'on saura tout à fait garder les distances nécessaires. Je serai soumis au secret de fonction aussi. Et elle, de toute façon, elle est aussi soumise quand elle est au bureau, au secret des séances. Donc je pense que ça ne posera pas de problème d'incompatibilité.
Vous succédez au bouillonnant Sébastien Fonti. Sacré défi.
Oui, je pense que c'est un défi. Mais après, je pense qu'on peut tous voir la fonction de façon différente. Aujourd'hui, M. Fonti a, je pense, fait un excellent travail en tant que préposé. Je pense qu'il a d'excellentes compétences dans le domaine. Il a décidé de ne pas se représenter. Voilà, il fallait quelqu'un. Moi, j'aurais, je pense, un style profondément différent, un rapport avec la presse et les réseaux sociaux qui sera bien différent aussi. Et on verra une fois la fonction prise ce que ça donnera.
Vos priorités, ce sera quoi ?
La priorité attendue, c'est l'affaire sans brancher. Donc du coup, ça sera déjà de reprendre ça. Et puis après, de faire le tri dans les dossiers actuels pour savoir ce qu'il y a en cours et ce qu'il y a à développer. Puis la première priorité, c'est de trouver des locaux commerciaux et puis d'engager du personnel.
Oui, à noter que Loris Loat prévoit déjà d'engager un juriste de langue allemande, car s'il parle lui-même la langue, il estime la maîtriser insuffisamment à l'écrit. Pour le reste, le Valaisan d'adoption, on l'a compris, est avocat depuis plusieurs années. Il dispose d'une formation en protection des données, mais devra compléter son bagage dans le domaine de la transparence, où il n'a que peu de connaissances, selon la commission qui l'a auditionné. L'intéressé possède également des compétences en droit commercial. Il justifie enfin d'une certaine expérience dans les domaines techniques et juridiques.
Yves Terrani, merci d'avoir été avec nous. Ajoutons que le Parlement valaisan, qui poursuit ses délibérations, a encore accepté ce matin un postulat du député de Colombey-Murat, Thomas Birbaum. Ce dernier réclamait que les conférences de presse organisées par l'État du Valais soient désormais diffusées en direct. Autre décision, les travaux de certaines séances de commission seront désormais traduits.
La Trans-Chablaisienne a été inaugurée il y a 10 ans, en novembre 2012.
Son ouverture avait été accueillie avec enthousiasme. Aujourd'hui, 12 000 véhicules transitent par la H144, longue de 4,25 km entre les Évouettes et Réna. La raison de cette réalisation était d'alléger la circulation dans les petites localités et sur les routes secondaires. D'après le canton de Vaud et du Valais, cet objectif est atteint, mais il souhaite continuer les efforts en ce sens. Pierre Baïs, responsable vaudois de la division infrastructure à la Direction générale de la mobilité et des routes.
Ce qui reste, il y a les travaux en cours du côté valaisan, c'est le tunnel des Évouettes. Ça, c'est la dernière pièce du grand puzzle du dispositif la 144 qui va permettre surtout de soulager la porte du Cay, où on constate déjà 50% de réduction du trafic par rapport à l'époque où la H144 n'existait pas. Mais on sait encore que sur ce tronçon-là, on a vraiment un potentiel d'amélioration pour limiter le trafic de transit.
Pour inciter les automobilistes à emprunter la H144, d'autres moyens vont être mis en œuvre. On retrouve Pierre Baïs.
Donc c'est des mesures de modération de trafic, de réduction de largeur. Et puis à la porte du Cay, on prévoit aussi modifier la présélection pour rendre l'accès par la porte du Cay un peu plus difficile pour ceux qui font du transit. Et puis le réserver plutôt aux habitants des villages qui sont traversés par le trafic.
Pour rappel, la route avait coûté 114 millions de francs à la Confédération et en canton du Valais et de Vaud. C'était un sujet de Guillaume Abbé.
Il sera possible de continuer à lire pendant la fermeture temporaire de la médiathèque de Monthey.
L'établissement lance une action de gardiennage de livres à partir du 19 décembre. Les usagers sont invités à emprunter 40 livres pour un prêt de longue durée. Une action qui se veut ludique mais aussi pratique. Elle a pour vocation de faciliter le déménagement et le stockage des documents actuellement répartis sur les trois étages du lieu. Pour rappel, la médiathèque de Monthey va fermer ses portes dès le 19 décembre prochain pour une durée de plusieurs mois. Cette date coïncide avec le début de la construction du futur pôle touristique et culturel de la ville intitulé Casanova. Le conseil communal d'Aigle a approuvé hier soir les trois préavis qui lui étaient soumis. Le premier était lié à l'établissement d'une transition à la culture sans agrochimiques sur les parcelles viticoles et agricoles de la commune. Le deuxième avait trait à l'éclairage public. À ce propos, un crédit de 1 750 000 francs a été accordé à la municipalité avec pour objectif de mettre en place un plan directeur sur l'utilisation des lumières de la ville. Le troisième préavis concernait quant à lui la vente d'une parcelle située dans la zone industrielle pour l'implantation d'un centre d'entretien des trains régionaux pour les CFF. Et la pataugeoire du jardin Doré à Vevey s'apprête à faire peau neuve. Trop vétuste et ne répondant plus aux normes actuelles en matière de sécurité, le bassin emblématique sera transformé en espace aqualudique, attractif et sécurisé. Un concours de projet sur invitation va être lancé prochainement par la municipalité de la Riviera. La semaine des médias à l'école revient lundi pour une 19e édition. Plusieurs centaines de classes romandes y participeront en piochant parmi une cinquantaine d'activités autour du thème « S'informer pour comprendre le monde ». Couverture de la guerre en Ukraine, traitement du changement climatique, repérage des fake news ou encore rôle des influenceurs sont quelques-unes des questions qui pourront être abordées durant la semaine. Exemple pratique à l'appui.
Une étape importante aujourd'hui dans le processus de succession des conseillers fédéraux démissionnaires Simonetta Sommaruga et Uli Maurer.
À Berne, le groupe parlementaire socialiste décide formellement des critères pour figurer sur son ticket de candidat. S'il valide l'option de présenter deux femmes, il élimine d'ores et déjà le Zurichois Daniel Josic. On le saura en fin d'après-midi. À Eremans, en Valais, cet après-midi, les 62 parlementaires fédéraux du groupe UDC désignent leur candidat officiel. Il devrait être deux.
Cinq prétendants UDC sont en lice, les Bernois Albert Rösti et Werner Salzmann, le Zurichois Hans-Ueli Vogt, le Zougois Heinz Stenler et la Nidwaldienne Michelle Blöchliger. Difficile de faire un pronostic, on voit mal les deux Bernois composer le ticket, il faudra donc choisir entre Albert Rösti et Werner Salzmann. Hans-Ueli Vogt pourrait être retenu. Le verdict est attendu entre 17h30 et 18h. Comment celles ou ceux qui veulent s'installer dans le fauteuil d'Ueli Maurer parlent-ils français? Celui qui est le plus à l'aise, c'est le favori Albert Rösti. Nous lui avions demandé en 2020 si son retrait de la présidence de l'UDC, c'était pour mieux préparer sa candidature au Conseil fédéral.
C'était vraiment pas une question dans cette décision. Si on pense à ça, la décision serait fausse. C'est jamais prétendu quelque chose en politique pour les prochaines quelques années. Jamais on peut pas le faire.
Ce fut une surprise de l'apprendre, le plus francophone. C'est le Zurichois Hans-Ueli Vogt.
Tandis que d'autres jeunes gens faisaient autre chose avec 12 ou 15 ans, moi je lisais des livres sur le grammaire français et je m'intéressais au subjonctif et au passé simple.
Le colonel Salzmann défend les nouveaux avions de combat F-35 avec le sens de la formule.
Nous n'avons pas besoin d'un jet légère, parce qu'avec un jet laser, c'est pas possible de sécurité, l'espace aérien, ça marche pas si vous voulez, avec un trottinette derrière un ferraille.
Pour la plurilingue Michelle Blöchliger, est-ce un avantage d'être une femme?
C'est la biologie que je suis une femme, mais c'est peut-être maintenant c'est un avantage pour motiver aussi autres femmes de prendre ces décisions comme ça.
Et pas trace d'expression en français d'Heinz Stenler.
À Berne, notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
Faire pression sur la Corée du Nord.
C'est la promesse annoncée ce jour par la vice-présidente américaine Kamala Harris et les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Cette annonce intervient à la suite d'une réunion urgente tenue après que Pyongyang a tiré un missile balistique intercontinental. Le climat actuel avec la Corée du Nord est tendu. Les services de renseignement américains pensent qu'elle prépare un 7e essai nucléaire. La déclaration a également appelé tous les membres des Nations Unies à appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité qui ont imposé de larges sanctions à ce pays. Et des tractations ont lieu depuis plusieurs mois entre la Russie et les États-Unis autour d'un échange de prisonniers. Celui-ci impliquerait notamment le marchand d'armes russe Victor Bout, détenu par les autorités américaines, et la basketteuse américaine Brittney Griner, laquelle pourrait servir de monnaie d'échange. Les soutiens de la basketteuse âgée de 32 ans dénoncent une affaire politique, accusant les autorités russes de la retenir en otage, dans un contexte de tension entre Moscou et Washington autour de l'Ukraine. En ski alpinisme, Morgin est sur les rangs pour accueillir les mondiaux en 2025. L'annonce a été faite hier à Trois-Torrents. Dans un peu plus de deux ans, la station chablaisienne espère accueillir les meilleurs spécialistes de la planète. Pour faire la différence, les initiateurs du projet pourront s'appuyer sur leur expérience sur le front de la Coupe du Monde. En janvier dernier, le circuit international avait fait halte à Morgin et ce sera une nouvelle fois le cas dans deux mois. Une verticale, un sprint et une course individuelle se tiendront aux abords du village du 11 au 14 janvier 2023. Pour ces rendez-vous prévus loin du domaine skiable, le côté sauvage sera à nouveau mis en avant, un aspect qui plaît aux athlètes. Les explications de Yannick Ecker, chef technique de ces épreuves de Coupe du Monde à Morgin.
Les athlètes, on a besoin d'avoir des vraies courses, des belles courses. Et à un moment donné, sur certaines années, à la fin de ma carrière, je commençais à avoir aussi un peu de déception. Souvent, on se déplaçait. On avait une course ici comme Torgom, comme Valrette, qui était magnifique, et puis on partait faire des boucles en Bas-Andorre ou comme ça, et c'était vraiment devenu frustrant. Et je pense que tout le monde s'est un peu rendu compte, parce que l'année passée, les athlètes ont eu la chance d'avoir que des beaux parcours. Peut-être aussi le fait que ça devienne un sport olympique, ça pousse des stations un peu plus grandes, qui ont peut-être plus de moyens à organiser des courses de ski alpinisme, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et là, maintenant, d'avoir ces remontées mécaniques à côté des parcours de ski alpinisme, ça amène du monde, ça fait découvrir la discipline et c'est ça qui est intéressant.
Mais s'il s'agit de contenter les athlètes, les organisateurs de ces courses de Coupe du Monde de ski alpinisme veulent aussi attirer le public. À Morgin, Charlie Remermet, président du comité d'organisation de ces courses, revient sur ce point très important.
Alors d'abord, la création de ce village de la manifestation, où on va faire aussi découvrir par une petite exposition l'équipement, le matériel, par des films qui tourneront en permanence un peu les épreuves. Et puis associer les populaires à notre course Coupe du Monde, ben c'est clair que ça va aussi faire venir beaucoup plus de public, parce qu'en général, un populaire, il vient un peu avec sa famille, il vient avec ses enfants, il vient peut-être avec son épouse ou inversement. Donc c'est clair que là, il y aura plus de facilité à faire de la promotion. Et nous, ce qu'on va essayer, c'est aussi quand même de montrer aux gens qu'il y a à Morgin, avec le Rondeau-Parc, on fait du ski alpinisme ailleurs que sur les pistes de ski.
La Coupe du Monde de ski alpinisme fera donc escale à Morgin du 11 au 14 janvier 2023, soit dans moins de 2 mois.
En hockey sur glace, Jonas Berthou et Mathieu Marais forment un tandem 100% chablaisien au HCSIRE.
Les deux défenseurs qui ont fait leur gamme à Monthey évoluent ensemble depuis le début de la saison et leur association n'a pas tardé à convaincre leur entraîneur Yves Sarraud. Le Colombérou et son voisin de Lavey sont deux des trois éléments défensifs les plus utilisés en championnat par le coach québécois. Si leur binôme fonctionne sur la glace avec une moyenne de près de 20 minutes de temps de jeu par match, Mathieu Marais et Jonas Berthou ont aussi appris à se connaître hors des patinoires. Afin de poursuivre leur progression, ils sont ainsi capables de se parler avec franchise, un vrai point fort à en croire Jonas Berthou.
Moi je pense que c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien entre deux personnes, de l'honnêteté, après sans être malhonnête du coup, mais non, il faut se dire les choses. Et puis moi j'ai aucun souci avec Mathieu, c'est même lui qui me le dit, dis-moi s'il faut changer quelque chose comme ça, et au contraire lui il me fait des remarques quand il faut.
Facile aussi d'encaisser quand ça vient d'un plus jeune joueur, certaines remarques potentielles?
Ah non, absolument, moi je suis ouvert à tout, hein. Tant que c'est dit avec du respect et puis que c'est dit avec des formes, moi j'accepte tout. Et puis justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'a pas peur de venir. Et puis moi je lui dis, mais viens si tu as des questions, comme ça on discute, on parle, comme ça on s'aide. Parce que ce qui est important, c'est qu'on communique, jusqu'à maintenant ça, tout se passe bien, et puis on va faire en sorte que ça continue sur cette ligne.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter qu'un troisième défenseur chablaisien évolue également sous le maillot du HCCR en Swiss League. Il s'agit de Sacha Berthou, qui n'est ni plus ni moins le frère de Jonas.
L'actu en continu, radiochablais.ca.